Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi, là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Des Sang-Froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Basquerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène.
Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Commencer par dire un bonjour. Enfin, nos trois héros principaux sont présents dans la joie, le bonheur, l'allégresse. Non, restez habillés, je vous en prie. Le monde n'est pas prêt pour ça. Pas encore, pas encore. Comment ça va, les amis?
Bonjour, bienvenue.
Bienvenue.
Et bonjour, ça va très bien.
Ouais, sans plus attendre, je déroule le tapis rouge pour vous. Autour de cette table virtuelle, nous avons Andréane, NJ et Thomas. La politesse voudrait que je commence par notre jolie dame, mais je veux me débarrasser des plus désagréables d'abord. NJ, comment ça va?
Ça va très bien, et je tiens à préciser pour ceux qui trouvent que je suis dur avec toi, que la photo que tu utilises pour toi là sur Internet, c'est Pennywise le clown. Et de tout l'univers de Stephen King, je pense qu'il n'y a pas plus manipulateur et sadique que Pennywise, et je trouve que ça résume bien ta façon de masteriser.
Écoute, on va le dire tout de suite, là. On n'en est pas à notre première tentative pour enregistrer cette intro. On a eu des petits problèmes de micro. Et dans cette première intro, que vous n'entendrez jamais, ben j'ai passé un sale quart d'heure, les joueurs qui me ramassent littéralement, et ça, c'est tout à fait injustifié. Donc, changement tactique de ma part. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, je vais vous lancer, je vais vous tirer à boulet rouge. Chaud d'Andréane. Andréane qui sera préservée de mes représailles. NJ, veux-tu me parler de Solomon un peu? Brièvement. Qui est-il?
Oui, Solomon, donc, qui est un frère de l'Ordre de la Ronde Hache, un frère commandant qui a mené plusieurs campagnes dans son pays pour le roi Marcus Irimonde XVII. qui a tué son lot d'adversaires, qui a créé des liens forts d'amitié avec ses frères d'armes, qui est tombé en amour avec une sœur qui est également d'un ordre religieux, quelque chose d'interdit d'ailleurs. Et j'ai mené une campagne sur les côtes de Mezzo et j'ai dû suivre les ordres envoyé par mon royaume, c'était si je m'offrais comme prisonnier, ils libéraient tous les hommes, tous nos hommes qu'ils avaient capturés. Et donc, j'ai accepté, ce qui m'a valu d'être au début de cette partie, je pense que ça fait environ 4 ans que je suis en prison.
Effectivement, et tu voudrais qu'on pose la caméra sur toi, sur ta déchéance?
Ah ben, que écoute...
Je peux jouer!
C'est là que le DM m'a mis, je tiens à le souligner, là.
Ouais, ben écoute, c'est le scénario. Moi, je suis le scénario.
C'est toi qui l'écris!
C'est tout de ta faute, là. Essaye pas de passer ça, c'est la faute du voisin.
Hey, je vous laisse me tirer dessus. Comme... Andréane, je t'aimais, toi. Andréane, ton...
Je t'aimais à l'époque!
Andréane, tu interprètes Ygritte. Qui est-elle?
Yes. Elle est sauvage. C'est, je dirais, un beau mix entre sauvage et on ne sait trop qui, dû au viol que sa mère a commis pour pouvoir procréer. Sa mère qui est chef de clan.
Oui, t'es une Guanaque, qui est un peu comme des Amérindiens, là, des Premières Nations. Et vous avez de solides, de farouches guerrières. Puis c'est des fois une habitude, lorsque vous envahissez des villages du Dominion, que les femmes violent littéralement les hommes.
Oui, mais c'est dans le but d'accroître la puissance, les facultés, d'aller chercher les forces des clans à l'extérieur pour renforcer notre clan à nous.
Mêler les gènes.
C'est très ingénieux, dans le fond.
Ouais. Et toi, on sait, hein, t'as une colère qui t'habite. Tu vis entre deux clans. Ouais. Tu vis entre une meute de loups et un nouveau clan qui t'a accueilli avec un père d'adoption.
Oui, mon véritable clan qui me porte beaucoup plus à cœur, c'est mon clan de loups, mais je dois quand même... fraterniser avec les humains.
Et là, on va te retrouver très, très loin
de chez moi,
de ton territoire,
oui.
Au nord. Tu es maintenant au sud. On va te retrouver justement dans cette cité de Nippur où vit Kenan. Et Kenan...
Oui, conséquence de mes bêtises.
Kenan.
Oui, toujours là, comme d'habitude.
Thomas, parle-moi de Kenan Karaman. Qui est-il?
Kenan Karaman, toujours aussi compliqué d'arriver à réduire un personnage aussi beau et aussi charismatique en seulement 15 secondes de description. comment on peut le voir, c'est un homme qui a une agilité à toute épreuve, un mental d'acier. Il est instruit, il est intelligent, il est toujours bien habillé, il est bien admiré de tout le monde, en fait. Tellement de choses, et puis voilà. Son père s'appelle toujours Beryn Karaman, en fait. Il a pas changé, c'est toujours le même père depuis la fois d'avant où tu me l'as demandé. Donc,
Sortez les violons!
Mais attention, tu es respecté, admiré de tout le monde. Faut pas oublier que ton père a quand même été discrédité. Il veut un peu comme un paria chez la noblesse, donc c'est plus dur pour toi de séduire les jeunes filles de la noblesse.
Alors, j'aimerais bien ne pas être forcément relié à ce genre d'événement.
Ouais,
j'essaie d'oublier. On essaie tous d'oublier.
Et tu es le plus jeune de notre trio.
Oui, je suis le plus jeune, ouais. J'ai seulement 16 ans. 16 ans, mais ce qui est déjà bien avancé à l'époque où nous vivons.
Oui, effectivement, vous êtes adulte à partir de 14 ans. Donc, tu es un jeune homme plein d'hormones et... Nous allons mettre la caméra sur lui. On va vous voir, peut-être en groupe, peut-être en solo. Êtes-vous prêt à plonger?
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, après des négociations ardues comprenant tribut et dédommagement pour l'invasion, les prisonniers faits par l'armée mésoène ont été libérés pour regagner le Dominion. Parmi les prisonniers, il y avait le fils aîné du roi Marcus Irimond XVII, le futur roi du Dominion, puisque Marcus est mort pendant le siège de la cité d'Ur. Cette dernière ville fut abandonnée par le régiment du frère commandant Solomon, et lentement, très lentement, la vie a repris son cours dans le royaume de la côte de Méso. Cette guerre ne s'est pas terminée à la pointe d'une épée, mais par celle d'une plume et d'un traité. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que dans les négociations, le nouveau roi de la côte de Méso, Azim le Hardi, a exigé que frère Solomon, le Kral Katili, le tueur de rois, se livre discrètement à eux pour que les hommes de son régiment puissent repartir au pays, de l'autre côté du détroit du Trident. Depuis 4 ans, le frère commandant croupit dans une cellule d'un ancien colisée à l'abandon sur le bord de la mer, entre Nippur et Uruk. Voilà 4 ans qu'une fois par mois ou deux, Beryn Karaman va visiter le prisonnier, l'homme qui fut la cause de sa déchéance, et discute avec lui durant des heures. Par le plus improbable revirement du destin, les deux ennemis jurés sont devenus amis. Pourquoi? Est-ce justement à cause de leur destin? Deux grands guerriers de renom qui ont chuté, l'un déshonoré, l'autre abandonné dans des oubliettes, laissé pour mort pour son peuple. Peut-être, qui sait? Pour avoir failli à protéger le roi Abid le Bon, Beryn Karaman s'est fait couper le bras droit, son bras d'arme, et il fut congédié de l'armée mésoène, devenant ainsi un paria aux yeux de la noblesse dont il fait partie. Allons voir pour la première fois l'un de nos héros, Kenan Karaman, le fils du commandant déchu.
Chapitre 1. Un héritage lourd à porter.
Ok, nous voilà maintenant dans la cour intérieure de votre villa où jardin, bassin, marbre blanc se mélangent pour créer ce petit paradis que l'on voit. Le soleil est chaud, mais pas impitoyable, c'est une journée parfaite. Alors que tu grimaces, on voit un verre porté à tes lèvres. Une servante à tes côtés du nom de Diba te regarde grimacer. « Ai-je mis trop de citron dans votre eau, jeune maître ?» demande-t-elle embarrassée.
Ah, c'est pas... Le goût est pas... Ouais, c'est...
Laissez. Tu le vois qu'elle reprend le verre et elle part aussitôt, s'éclipse dans les ombres, sous les arches, pour aller te resservir. On te voit, Kenan, avec un cimetière dans les mains. Et devant toi, dans une place prévue pour ça, à l'intérieur, dans la cour intérieure, tu as Raja, qui s'impatiente dans le carré d'entraînement, qui t'attend lui aussi avec un cimetière d'entraînement.
Raja, venez ici, venez boire avec moi. Qu'est-ce que vous faites là-bas encore?
Et là, soudainement, la voix de ton père. Raja fait annuler son cours d'équestre pour s'entraîner avec toi. La moindre des politesses, fils, serait que pour une fois, tu mettes un peu plus d'ardeur à l'entraînement martial.
On voit Kenan, qui jusqu'à maintenant avait l'air assez tranquille et assez posé sur sa chaise, s'est mis au son de son père, à la voix de son père, à se redresser d'un air un petit peu glacé.
Tu vois ton père arriver, on voit ce bras manquant, toujours un peu gauche pour manier les objets autour de lui alors qu'il s'installe à une table avec des parchemins. Allez, je vais te voir un peu t'entraîner. Si tu manques d'ardeur, tu devrais demander à ton oncle Cal de reprendre l'entraînement avec toi là, à partir de la semaine prochaine. C'est ce que tu désires?
Ah, père, c'est bon, j'arrête pas de m'entraîner. J'y suis tous les jours avec Raja. Je pense que là, j'ai atteint un niveau... Ça va, je peux me battre contre n'importe qui, c'est pas...
Contre n'importe qui? Nous sommes une lignée de guerriers. Et j'ai peut-être fauté, mais j'aimerais bien que tu laves le déshonneur qui m'est tombé dessus. Le nom des Karaman qui vivent dans la cité de Nippur doit être racheté. Et ce n'est pas dans tes livres que cela arrivera.
On a une bouffée
de la part de Kenan qui au fond de lui est en train de se dire mais pourquoi je dois payer ça? Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire?
C'est pas la première fois que vous avez cette conversation autour du peu d'enthousiasme que tu éprouves à l'entraînement martial, que ce soit à main nue, au sabre.
Non, c'est une conversation sans fin que j'ai tout le temps avec lui et je comprends toujours pas pourquoi je devrais racheter son quelconque honneur. Je suis pas la même personne, j'ai pas envie de d'être lié à tout ça.
Où aimerais-tu être en ce moment, Kenan?
J'aimerais être loin de cette ville-là finalement qui a l'air parfaite comme ça, mais qui au final me tient prisonnier. De cette famille et de mes soi-disant devoirs que je dois porter sur moi.
Tu vois ton père s'installer à cette table avec ses manuscrits et les tiens sont là, quelques-uns des tiens. Il pose un regard sur eux et tu vois qu'il secoue la tête. Toujours à t'intéresser aux autres cultures, aux autres peuples. Celle des Mésoïnes ne te suffit pas, fils?
Non, j'aime bien lire d'autres... Je sais pas, c'est enrichissant de regarder d'autres cultures, apprendre de nouvelles langues.
Je ne suis pas contre l'éducation, loin de là. Je l'encourage. C'est pour ça que tu as 4 précepteurs, mais te voir tourner le dos à notre héritage, autant martial que culturel, me chagrine.
Bon, c'est bon, père. Là, à ce moment-là, Kenan se lève, donne un nonchalant, et puis commence à partir vers Raja, vers l'arène, pour aller s'entraîner.
On perçoit sur le visage de Raja tout le malaise. Il comprend qu'il devrait pas être témoin de cette conversation père-fils. Raja qui... peut-être que dis-moi, est-ce que tu prouves un peu de jalousie par rapport à Raja, dans le sens que c'est un ami de la famille, ok? C'est une famille qui est proche de la vôtre. Et sans doute que Raja répond davantage à tous les standards que voudrait peut-être voir ton père en toi. Discipliné, très, très religieux par rapport aux divinités mésoènes. À l'entraînement très assidu et il y a une bonne complicité avec son père, sa famille, tout ce que tu n'es pas.
Effectivement, c'est un de mes précepteurs, donc c'est des personnes avec qui je suis les plus proches et ça fait partie de mes amis les plus proches. Et on a souvent des discussions ensemble et ça m'est déjà arrivé de lui proposer en rigolant autour d'un verre de prendre ma place et justement de me faire passer pour ce fils que mon père attend avec impatience.
Et pourquoi tu n'es pas capable de faire ce pas-là vers ton père? Pourquoi? C'est vraiment contre ta nature, Kenan? Tu ne pourrais pas embrasser une carrière d'officier militaire?
Non, c'est quelque chose qui ne me tente pas du tout. J'aspire à autre chose. Les armes, ça... Je m'entraîne pour devenir un bon soldat, comme il le souhaite, mais je n'éprouve pas plus de plaisir que ça, et je n'ai pas arrivé à des hauts rangs, partir dans la politique, ça ne m'intéresse pas.
Et si ton père apprenait ce qui se passe avec Zifa, ton précepteur en mathématiques, que depuis tout près d'un an, environ une dizaine de mois, il t'a ouvert à la ténèbre, à cette magie. Ton père est un guerrier, un homme pragmatique. Pour lui, magie égale politique, égale coup fourré, égale manipulation. Et tu t'efforces d'apprendre auprès de Zifa, mais dans le plus grand secret. Qu'est-ce qui pourrait arriver si ton père apprenait que tu t'es ouvert à la magie?
Je ne sais pas. peut-être qu'il me pardonnerait, comme je suis son seul fils et digne héritier, mais je préfère pas en parler avec lui.
Kenan a quel âge?
Kenan a 16 ans.
Ah ben c'est ça, il est en pleine crise d'adolescence, il cherche. Trouvez-y un conseiller d'orientation, ça va bien aller.
Tout est réglé. Effectivement.
S'il te plaît, on a déjà un psychologue dans le jeu, on n'a pas besoin d'en avoir un deuxième. Merci.
Effectivement, 16 ans, mais je vous rappelle que dans Babel, on est adulte à partir de 14 ans. Donc oui, c'est un jeune homme, et oui, encore plein d'hormones, et effectivement, il y a peut-être ce sentiment de rébellion, de se démarquer de son père et de toute sa famille. C'est une lignée de guerriers, les Karaman.
On est adulte, mais je pense que quelqu'un comme Solomon a le même âge, non? Il a 16 ans, 17 ans aussi.
Il avait, mais là, lors de la conquête, il est rendu à 23. Il avait 19 ans lorsqu'il a franchi le détroit du Trident et qu'il a commencé votre conquête, mais alors qu'il pourrit dans les cellules d'un colisée en ruine, il a 23 ans.
Ouais, c'est ça, mais je pense qu'à 16 ans, il était beaucoup plus...
Ouais, à 16 ans,
il avait déjà passé sa crise d'adolescence, quoi.
Ouais, à 16 ans, je massacrais déjà des potes, moi.
Ouais. Déjà. Oh, ouais. Et ça grandit vite, ces petites bêtes-là. Ah, hein.
C'est beau à voir.
Papa aurait été fier. En parlant de Zifa, on voit justement sa silhouette se profiler sous un arche. Il arrive dans l'entrefait. Ah, jeune maître Kenan! Ah, je vois que j'arrive trop tôt. Vous êtes encore à l'entraînement martial. Tu vois immédiatement, Kenan, l'agacement qui se lit sur le visage de ton père en observant ton maître. Crois-tu qu'il a eu vent un peu de tes secrets avec Zifa, à voir son agacement?
Peut-être pas des secrets, mais en tout cas, je pense pas qu'il se doute de quelque chose, mais c'est surtout que c'est le précepteur avec qui je passe le plus de temps, et puis...
Peut-être trop de temps, oui.
Peut-être un peu trop de temps pour lui, sachant que c'est mon précepteur qui m'enseigne plutôt tout ce qui est mathématiques, langue et tout ça. Je pense qu'il préférait que je passe plus de temps avec Radja, qui est mon maître d'armes.
Effectivement, aux excuses de Zifa, ton père répond « Vous n'arrivez pas trop tôt, Zifa. C'est mon fils qui inutilement étire cette séance d'entraînement. »
Ne vous inquiétez pas, Zifa. C'est terminé pour moi. Kenan se tourne vers Radja et lui adresse un sourire, une sorte de petite inclinaison pour lui dire merci. Il va poser son cimeter et puis commence à aller vers Zifa d'un grand sourire.
Et on voit ton père se lever et lui se diriger vers Radja, lui serrer la main.
Je m'excuse de vous avoir fait déplacer pour rien, jeune homme.
Le jeune homme s'incline. Y a pas de quoi, commandant. Et même si ton père n'est plus dans l'armée, on voit que Radja fait un peu de la lèche en appelant ton père commandant.
Et il quitte lui aussi, non sans t'envoyer un sourire dans ton dos.
Chapitre 2. Une amitié née de la guerre.
Angie, on s'en va te retrouver après 4 ans de détention. On voit l'image de cet ancien colisée, ses ruines. T'es pas dans le luxe, toi. Hein? OK?
Donc, j'ai un physique défait, amaigri, plus aucun muscle sur le corps, puis le moral probablement défait aussi.
Amaigri, oui. Musculairement, sans doute que tu peux te tenir quand même en forme. T'as toujours ces fameuses menottes, hein, qu'on a vu 5 en ténébreurs venir te menotter sur cette plage, alors que tu voyais les navires partir au loin, prendre la mer. Toi, t'es resté le seul du Dominion.
et tu as vu ces enténébreurs venant des quatre coins des territoires de Babel. Et tu as vu l'enténébreur, le conseiller personnel du défunt Marcus, de ton défunt roi, te regarder et te dire « Je suis désolé, mais que tous les augures, tous les loin-voyants, tous ceux qui voient l'avenir dans le feu, dans l'eau, ont tous vu que toi, Solomon, frère Solomon, tu serais le responsable de la deuxième destruction de Babel. » Avant que la caméra se transporte dans ce colisée en ruine, dis-moi, Cal, comment tu vois cette relation entre ton ami et frère et votre ancien ennemi?
Beren, c'est un guerrier qui est farouche, mais c'est un cœur de roi. Et l'homme s'est livré pour sauver beaucoup de vies. Ça a marqué beaucoup de gens. Dont Beren qui est, je pense qu'il fait ça pour le remercier pour tous les hommes qu'il a sauvés. Au bout d'un certain temps, la haine, la frustration, la perte de l'honneur et tout ça, s'est estompé. Il est resté de ça juste, je pense, une forme de gratitude qui va être mal exprimée, mais qui va être exprimée de cette façon-là.
Très bien. La caméra va de cellule vide en cellule vide, dans ces ruines. Comme à la recherche de vie en ce lieu qui semble abandonné. Pas vraiment. La caméra rentre dans une pièce où une demi-douzaine de gardes s'affrontent au dé, un monticule de piécettes au centre de la table de jeu. La caméra les laisse à leur occupation et continue l'exploration des cellules. Enfin, une porte faite de barreaux de fer interdit l'accès de l'une d'elles. Une ombre assise, à même le sol. Que fais-tu, Solomon, dans ta cellule?
Les yeux fermés, j'essaie de penser à mon passé, aux vies que j'ai enlevées, et probablement que les gardes, de temps à autre, rient de cela, mais peuvent en m'entendre parler à des gens qui ne sont pas présents. Parce que Solomon, dans ses prières, parle directement aux défunts, qui fait partie de sa religion. Dans le Dominion, c'est la religion, on croit aux défunts. Et Solomon, donc, les vies qu'il a fauchées, il parle à ces gens-là et il leur demande pardon.
Rassure-moi, est-ce que tu parles vraiment aux défunts ou est-ce un signe de ton incarcération, de ta longue incarcération?
Oui, c'est plutôt la deuxième option. Effectivement, un homme peut perdre la raison dans une cellule enfermée trop longtemps sans contact social ou en tout cas de trop rares contacts. Et donc, Solomon ne parle pas vraiment aux défunts, mais c'est une façon pour lui de protéger sa santé mentale.
Bon, rassure-toi, ton cœur doit être un peu plus léger aujourd'hui. Solomon, tu le sais, c'est la visite de Beren. Il vient toujours à des jours bien précis du calendrier. Que ressens-tu à l'attente de l'ex-commandant?
Je trépigne, j'ai probablement... On voit mon pied qui bouge frénétiquement, là, comme un tic de stress, parce que j'attends d'une minute à l'autre la visite de Beren, et c'est tout pour moi, hein, parce que c'est le seul moment où je communique avec quelqu'un. Et j'ai hâte d'avoir des nouvelles de lui, et même de sa famille, parce que c'est rendu mon monde maintenant.
Donc, c'est ton seul visiteur depuis 4 ans, Solomon?
Oui, Beren est le seul qui vient me voir de temps à autre. Je vois personne d'autre, donc parler aux défunts est devenu quelque chose qui est venu avec le temps.
Hey, sérieux, va falloir parler à ton MJ, c'est vraiment chien.
Ouais. Hein?
C'est pas une vie pour un personnage.
Je passe mon temps à le dire que je suis satisfait.
Tu vois Beren, qui
qui s'approche lentement d'un banc qui est tout près des barreaux qui te séparent de la liberté. Dieu qu'il a vieilli. Ce n'est pas 4 années qui pèsent sur lui, semble-t-il, mais 15 années de plus. Il s'assoit lentement et dépose un panier en roseau à côté de lui, sur le banc. Le geste est un peu gauche. C'est le cas de le dire. Alors qu'il n'a plus que ce bras. Le bras droit a été tranché à la hauteur du coude, sous les ordres du roi Azim. Sa punition pour avoir failli à protéger l'ancien roi fut la perte de son bras d'armes et son renvoi de l'armée. De noble naissance, Beryn a vu toute la noblesse lui tourner le dos, comme s'il était un paria. Bien sûr, l'ex-commandant est relativement riche. Il s'est ouvert une école de combat. Mais quel noble y enverrait ses garçons? Seuls les pauvres, qui ne rechignent pas à faire affaire avec lui, y inscrivent leur enfant. La vérité est que Beryn est vieux et brisé. Je t'ai apporté de l'huile, des olives, du pain et du fromage. J'avais de la viande d'agneau, mais ce gros porc de Pharah l'a confisqué en entrant ici. Tes gardiens sont vraiment de sales cons. Il te glisse le panier près des barreaux.
Merci. Écoute, je lui attrape la main et je le regarde dans les yeux. Est-ce que ça va? Ton fils va bien?
Fais-moi un jet de cerner quelqu'un. Tu as combien en niveau d'action?
Cerner quelqu'un, 4.
4. Tu vas me faire ton jet à 50%.
13.
Écoute, c'est une réussite totale. Tu sens qu'il y a quelque chose qui pèse sur les épaules de Beryn. Tu perçois son soupir et son regard qui fuit un peu le tien. J'ai des nouvelles pour toi, Solomon. J'ai encore une oreille qui m'est favorable au palais royal, à la capitale. J'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. Il te regarde. La bonne, c'est que tu vas sortir d'ici, mon ami. Le roi Azim t'a vendu pour que tu participes à un duel judiciaire. Dans une semaine, tu partiras pour les îles de fer, affronter Euron Swann, leur meilleur guerrier. À l'évocation des îles de fer, est-ce que Solomon fait le lien? Pourquoi les fermiers le veulent?
Solomon n'a jamais mis les pieds sur les îles de fer et a encore moins un litige avec un représentant de ce peuple-là. Mais par contre, il sait très bien que son père, qui était le chef des armées du Dominion auparavant, a fait brûler leur ville et a tué énormément de gens des îles de fer. Et donc, logiquement, la seule explication, c'est que ils veulent se venger sur lui parce que c'est le fils de son père, mais...
Et là, il y a peut-être un déclic. T'as eu une réussite totale. Oui. Peut-être que tu saisis que si les Fernés ne se vengent pas sur ton père...
Oui, c'est ça, j'allais justement poser la question à Beryn. Beryn, as-tu des nouvelles du Dominion? Sais-tu si l'ancien chef des armées, Santagar, est mort?
Tu vois qu'il baisse la tête. Effectivement, ton père est mort, il y a quelques semaines. Les Fernés ont toujours voulu se venger de lui pour ce qu'il a fait à leur capitale, Pike. C'est donc toi qu'ils veulent voir mourir durant un combat judiciaire. Le roi a décidé que le scribe qui témoignerait de ce duel pour les Maisons serait mon fils, Kenan. Solomon, j'ai un service à te demander. L'un des précepteurs de mon fils, je le sais, l'a initié à la ténèbre.
et la pire qui soit, la manipulation de l'esprit des gens. Tous ceux qui suivent cette voie deviennent fous ou des despotes. Tu n'as pas touché à une arme depuis 4 ans, ni utilisé la ténèbre. Ils croient tous que tu vas mourir devant Euron Swan. Moi, je sais que tu survivras. Si tu gagnes, les Fernés ont signé qu'ils te libéreraient. Tu seras libre, mon ami. Et là, tu vois un pâle sourire sur les lèvres de cet homme qui a trop vieilli. Tu dois me jurer. Je veux que tu prennes mon fils avec toi, Solomon, une fois libéré. Tu es un homme d'honneur. Tu es le seul que je connaisse qui puisse le préserver de sa chute après avoir touché la ténèbre. Me fais-tu cette promesse, mon ami? Et là, il passe son bras gauche à travers les barreaux pour saisir ta main. Jure-moi de sauver l'âme de mon fils.
J'attrape cette main que j'empoigne à deux mains et je ressens alors la chaleur humaine que ça fait des années que j'ai pas ressentie. Cela fait 4 ans que tu me parles de ton fils. J'ai l'impression de déjà le connaître, évidemment, Beren. Je te fais la promesse de tout faire pour le protéger du don qu'il a.
Et pour la deuxième fois dans ta vie, tu vois des larmes naître dans les yeux de l'ex-commandant Beren Karaman.
Beren, as-tu des regrets d'avoir été empoisonné par la sorcière et de ce qui a suivi? Aurais-tu préféré que l'on s'affronte devant la cité dure et que peut-être aurais-tu survécu, peut-être aurais-tu récupéré ton honneur et gardé ton bras?
Tu le vois qui se décolle des barreaux et vient presque s'effondrer sur le banc. Il appuie le seul coude qui lui reste sur sa cuisse et se penchant.
À l'époque, j'étais un commandant noyé de fierté, Solomon. Je suis allé vers la cité dure pour gagner. Dans ma tête, il était inconcevable que je perde devant toi. Les rumeurs comme quoi que tu manipulais magie et ténèbres, je n'en avais cure. Maintenant que je sais que les rumeurs étaient vraies, je sais que je serai mort devant les remparts de la cité. Et même si j'avais gagné, les frères de ton ordre m'auraient criblé de flèches. Est-ce que le chemin que j'arpente depuis 4 ans est rempli de joie? Et là, tu vois qu'il a un sourire triste. Je te mentirais si je te disais que oui. Ma vie est un enfer, Solomon. Mais il n'arrive jamais rien pour rien. Peut-être étais-tu là, justement, pour sauver l'âme de mon fils. Tout ça devait arriver pour sauver l'âme de Kenan. Merci. Merci de veiller sur lui. Il se lève tranquillement et te jette un dernier regard. Tu es un homme d'honneur, Solomon. Je ne t'oublierai jamais. Et tu le vois disparaître. Et c'est la dernière fois que tu verras Beren Karaman.
Chapitre 3. Vétérans et piliers de la dernière garde.
« Le soleil est dans son dernier droit de sa course dans le ciel. Dans 2 heures, la nuit laissera tomber son voile de fraîcheur sur la cité de Nippur. Alors que la caméra embrasse l'entièreté de la ville, elle zoome lentement vers le sud. En banlieue de la ville, l'une des dizaines de casernes militaires apparaît. On met l'image. Cal, toi qui es capitaine de 1000 soldats, tu as sous tes ordres une dizaine de lieutenants. En cette fin de journée, tu leur sers l'un de tes entraînements. Bien à toi. Tu n'es pas seul. Une dizaine d'autres capitaines sont également là avec leur propre lieutenant. C'est près de 200 officiers à l'entraînement. Tous de noble naissance, sauf toi. Dis-moi, à quoi peut bien ressembler tes entraînements pour tes officiers subalternes?
Cal est une force de la nature. Cal est probablement au corps à corps la personne la plus forte de son régiment. Donc, l'entraînement physique est un plus. Mais Cal est intransigeant. Il est très dur, il dérogera pas, mais en même temps, c'est toujours lui qui est en avant de ses hommes. Fait que si on se dit, ben, on va courir, toucher au pic de la montagne, on peut être sûr que Cal, ça va être le premier en avant et qu'il va le faire. C'est la forme physique, c'est probablement la chose que Cal considère comme le plus important. Voilà.
Donc, si je comprends bien, de tous les lieutenants qui sont là, qui sont entraînés par leur capitaine, ce sont les tiens qui brillent de transpiration le plus?
Voilà. On n'a pas... Il n'y a aucun lieutenant, il n'y a aucun officier qui a touché une arme avant d'avoir au moins fait 3 heures d'entraînement physique.
Et est-ce que tu es apprécié de tes hommes?
Respecté. Respecté. Probablement même un peu... Je pense qu'il y a de l'admiration, mais il n'y a pas d'amitié.
Très bien. Tu es le meilleur ami de Beryn, ton ex-commandant, qui est un frère pour toi. Son déshonneur a sans doute rejailli un peu sur toi, non? Il était présent lors de la mort du roi Abid. En fait, tu es l'un des rares survivants de cette première bataille lors du débarquement il y a 4 ans. Est-ce qu'on le ressent dans cette cour où il y a d'autres nobles?
Au rang de lieutenant et capitaine... Les soldats qui sont là, il y a beaucoup de gens qui voient au jour le jour comment les unités sont menées. Fait que donc, au niveau des capitaines et des lieutenants, Cal a une crédibilité, puis il y a aussi une espèce de d'aura autour de lui. Mais ça franchit pas le cap de tous les officiers opérationnels. À partir du moment qu'on monte, les officiers, eux voient l'espèce d'étiquette sur Cal. L'étiquette de la personne qui n'a pas renié son ami déshonoré comme les coutumes auraient voulu qu'on le fasse. Et c'est là que le bas blesse pour Cal. C'est que autant il aime sa carrière dans l'armée, autant il aime diriger des hommes, autant il aime ses hommes, même s'il ne laisse pas savoir, autant il sait que sa hiérarchie jamais va lui donner une chance. Jamais elle va... En fait, elle va sauter sur le moindre prétexte pour être capable de peut-être lui mettre sur le dos ou de carrément l'éjecter. Parce qu'il représente un peu l'ancienne garde. Il représente ce qui était avant.
Effectivement, tu n'as pas renié ton amitié et ton frère Beryn, ce qui déplaît à la noblesse, et aussi que tu es le fils d'un gardien de chèvres. Tu vas te contenter de ce grade de capitaine?
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autre... Cal n'a pas eu à penser à ça. Cal n'a pas eu à réfléchir. C'était son option, c'était ce qui était là pour lui. Il n'y avait rien d'autre. Et Cal a pas vraiment opportuniste. Hein. C'était ce qu'il y avait devant lui. L'armée, c'est toujours ce qu'il y a eu. Fait que tant qu'il sera pas forcé d'envisager autre chose, tant qu'il sera... Il va se contenter de ce qu'il y a présentement.
Très bien. Alors, qu'on voit tes hommes finalement se relever après un entraînement physique des plus ardus, enfin, ils se dirigent vers leur atelier d'armes pour... enfin, on va jouer après ce dur entraînement. Au loin, on voit, traînant un nuage de poussière derrière lui, le commandant Kuriga arrivé au galop sur sa monture et se frayer violemment un chemin à travers les lieutenants, passant bien près d'en blesser un ou deux. Je vais mettre l'image du commandant. Kuriga, tu le sais, Cal, ne donne pas beaucoup de valeur à la vie humaine, du moins pas envers ses subalternes. C'est ton commandant depuis que Beryn a été contraint de quitter l'armée. Et ta relation avec Kuriga n'est pas rose. En 4 ans, pendant des escarmouches contre les Anubiens, vos voisins du sud, t'as vu plusieurs de ces décisions qui ont entraîné inutilement des pertes chez les vôtres. Quel est ton ressenti par rapport à cet homme de haute naissance? N'apporte aucun crédit à tous ceux qui ont un grade en dessous de lui et pour qui la vie ne vaut pas grand-chose, finalement.
Je pense que tous les gens qui ont été sur le champ de bataille avec lui ont tous la même impression. C'est un parvenu qui n'arrive pas à la cheville de l'ancien commandant Beryn. C'est un parvenu qui a pas le respect de ses hommes. À certains moments même, Cal a sciemment désobéi à certains de ses ordres. Chose qui aurait été impensable avant.
OK. Est-ce que le commandant s'en est aperçu?
Non, parce que c'est... Cal ne serait plus là, hein, évidemment.
Effectivement.
Mais non, il s'en est pas aperçu. Et ça va plus loin que ça. Personne, en fait, les officiers opérationnels n'ont pas confiance en ce parvenu. Non seulement on n'a pas confiance, mais il n'est pas respecté.
Alors qu'il est du haut de sa monture, il hurle.
Messieurs, le roi Azim le Hardi nous enchante d'une visite surprise. Il est présentement au palais du vizir. Les immortels, sa garde rapprochée, s'occupent de la sécurité intérieure du palais. Mais il me faut 3 bataillons pour contrôler l'enceinte extérieure. Il me faut 3 solides et fiers capitaines avec leurs hommes.
À ces mots, tu comprends que ceux qui veulent des responsabilités doivent s'avancer.
Moi, je me tourne vers un capitaine qui a été jadis un lieutenant et même je lui fais signe que c'est un moment. Ça se trouve, c'est peut-être même un des officiers que j'ai un peu pris sous mon aile sans que ça paraisse trop. Parce que je sais clairement que je ne serai pas choisi pour ce genre d'honneur.
Donc, lorsque tu fais signe à cet officier que tu as pris sous ton aile pour l'aider, tu vois qu'il hausse les épaules, puis il te fait comme signe que tu comprends qu'il te fait signe que cet honneur devrait te revenir, car tu es sans doute... Tu es la meilleure lame de ton régiment, mais sans doute l'une des meilleures lames de cette armée. Qu'est-ce que tu réponds à
ben, j'ai un petit sourire en coin en sachant que ça... Que, peu importe ce qui arrive, ça... une résignation. Cal est résigné, il sait très bien que cet honneur-là, il est pas pour lui. Maintenant, les plus beaux honneurs qu'il peut avoir, c'est voir ses hommes graduer et faire des belles carrières. Parce que lui, la sienne est terminée. Elle n'est pas terminée, mais plutôt, elle n'ira pas plus loin que ça.
Très bien. Alors, on voit, je te dirais, 5 capitaines avancer, se mettre en ligne. Sur son cheval, le commandant passe devant eux. D'un œil critique, il les passe presque à l'inspection. Puis, fait faire un demi-tour à son cheval et passe derrière eux. Devant toi. À ta hauteur, il te regarde. Tu connais ta place, chien de gardien de chèvre. Il te lance un sourire en coin malsain. Et comme dans un murmure, poussé par le vent qui commence à poindre, ta place n'est pas près d'un roi. Le dernier que tu as approché repose en paix auprès du Dieu à nous. Et là, il donne deux coups de talon à sa monture et vient se placer devant les 5 capitaines. Toi, toi et toi, préparez vos bataillons. La silhouette d'un autre cavalier arrive, plus calmement, sous le terrain en terre battue de la caserne. Une armure dorée qui capte les lueurs rosées du soleil couchant. Clairement un homme du roi. Tous se retournent à l'arrivée du nouveau venu. Le commandant Kuriga. Qu'est-ce? Je cherche le capitaine Cal Shaddim. Et là, tout le monde, les 200 personnes présentes dans la caserne se retournent vers toi. Est-ce qu'il est ici?
J'avance d'un pas, d'un air très militaire. Oui, c'est moi, Shaddim.
Suis-moi, capitaine. Le roi Azim le Hardi exige de te voir. À ces mots, tu vois les épaules du commandant Kuriga s'affaisser d'incompréhension.
Je me tourne vers un lieutenant qui est probablement le plus compétent et le plus voyant, le vaillant, et je lui dis Chazé, tu me remplaces.
Oui, capitaine.
Et je m'en vais chercher mon cheval en passant à côté du commandant Kuriga.
Tu dois lever la tête alors qu'il est toujours sur sa monture.
Et... J'ai appris avec le temps à ne pas trop réagir à ces remarques, sauf qu'on peut voir quand même que de sa main droite, Cal tient son cimetière et que ses jointures sont blanches.
Geste qui ne passe pas inaperçu aux yeux du commandant. Mais alors qu'il a toujours l'habitude de te décocher des sourires mauvais, cette fois-ci, c'est toujours l'incompréhension qui est peint sur son visage. Et alors que tu te dirigeais vers ta monture, signe que tu es un capitaine respecté, tu ne fais que 3 pas, alors que l'un de tes lieutenants te donne la bride de ton cheval dans tes mains. Voici, capitaine.
Si. Retourne à ton rang.
On peut ressentir toute la fierté de tes hommes présentement. Elle est palpable.
Je me tourne vers le commandant. Je serai de retour bien vite. Sûrement qu'il ne veut que je garde ses chèvres. Mais il l'a pas vraiment dit, ça.
Ah, c'est ce qu'il aurait voulu dire. Ça t'aide très, très bien. Alors, c'est sans doute que... Permets-moi de te faire passer devant lui avec un léger sourire. À l'écoute de ta phrase que tu prononces dans ta tête, tu apprécies ta répartie.
Voilà.
Tu quittes donc cette caserne dont tu apprécies l'ambiance et l'énergie la majorité du temps et tu pars vers le palais du vizir afin de rencontrer ton roi pour la première fois en 4 ans, Azim le Hardi.
Elle est où, Ygritte?
Hein?
Hein? Est-ce qu'elle est?
On t'a pas entendu?
Non.
Andréane, c'est la magie du...
Être là.
C'est la magie du tournage, c'est du montage. T'as joué, mais ce sera pour le prochain épisode. T'as pas lu les petits caractères en bas de page du contrat?
Non, avoir su, j'aurais dû.
Ouais.
Je me suis fait avoir.
Ouais, t'es fait avoir. Oh, écoute.
Je vais en parler à mon agent.